Accent d'Europe, Laurent Berthoud.
Bonjour à tous. Tout l'été, Accent d'Europe vous propose de réentendre ses meilleurs moments. En Irlande, elles font partie du paysage dans les parcs ou à la sortie des écoles. Les filles au père qui s'occupent des enfants sont légion. Plus de 20 000, c'est 10 fois plus qu'au Danemark, pour une population à peu près égale. De jeunes salariés parfois exploités, faute de régulation du secteur, de plus en plus de parents abusent de ces jeunes femmes vulnérables, parfois payées une misère pour de longues journées de travail. Reportage signé Sébastien Duval.
Tu veux jouer au Duplo, Lego ?
Pas de Duplo, ni de Lego. Ethan a finalement porté son choix sur un jeu de dames. Le petit garçon de 6 ans a fini l'école vers 13h. Sa maman française est là cet après-midi. Mais la plupart du temps, c'est Céline, la jeune fille au père, qui s'occupe de lui.
Elle m'amène à l'école et vient me chercher. Elle prépare le déjeuner. Elle joue avec moi. Et elle me laisse regarder la télé.
Céline s'occupe aussi de sa petite sœur de 2 ans, Héloïse, et participe à la vie quotidienne de la maison, où elle dispose de sa propre chambre à l'étage. Elle touche autour de 100 euros par semaine pour 3 jours de travail et quelques soirées de babysitting le week-end. Une expérience conforme jusqu'ici à ce qu'elle était venue chercher en Irlande.
Pouvoir partager nos deux cultures, pouvoir moi avoir la facilité d'apprendre l'anglais, d'améliorer mon anglais avec les parents et aussi par le biais des enfants.
1, 2, 3, 4, 5, 6. It's time to blow this. Les frais de garde sont particulièrement élevés en Irlande. Il faut compter en moyenne 915 euros par mois pour une place en crèche, contre seulement 400 à 500 euros pour une fille au père. Une solution économique et pratique pour beaucoup de mamans comme Ophélie, installée dans le pays depuis une dizaine d'années.
Il n'y a pas le système de garderie d'avant-école, d'après-école, donc c'est pas forcément évident et c'est en plus très onéreux si on doit prendre une crèche ou quelque chose comme ça. Si on est une maman qui travaille, l'au pair, c'est vraiment très très bien. Nous, notre priorité, c'est de savoir nos enfants bien occupés. Et c'était vraiment, nous, notre motivation. Après, je sais qu'il y en a qui abusent du système et des tâches que l'au pair a à faire, mais nous, je pense qu'on est respectueux du bien-être de tout le monde dans la maison.
Malheureusement, ce n'est pas le cas de toutes les familles. Jenna, une jeune Française, en a fait l'expérience. Elle avait accepté de ne toucher que 80 euros par semaine afin de pouvoir bénéficier d'un peu de temps libre. Mais très vite, la liste des choses à faire s'est allongée. La lessive, la vaisselle, le ménage, le taxi pour toute la famille, les copains et les copines, des enfants à garder. Fatiguée de travailler pour moins de 2 euros de l'heure, elle a claqué la porte au bout de 3 mois. Une décision pas toujours évidente pour des jeunes femmes esseulées qui peuvent alors se retrouver à la rue. Et les parents en profitent.
Ils se rendent compte qu'on n'est pas dans notre pays, on n'est pas chez nous, donc on ne peut pas dire ce qu'on pense vraiment. Quand je refusais les babysitting, hein, parce qu'à la base, ils m'avaient dit « t'aurais tous tes week-ends », et que je disais « bah non, du coup, le samedi soir, j'ai quelque chose de prévu », ils me disaient « ah mais non, on te paye pour ça, donc tu restes, c'est comme ça ». Et retourner en France, bah, c'est un échec, donc je comprends qu'il y a des fois, on a envie de rester quand même, on prend sur soi, mais c'est pas agréable à vivre. Malheureusement, il y a des bonnes et des mauvaises expériences, c'est comme ça pour tout.
Des témoignages comme celui-ci, le Centre Irlandais pour le droit des migrants, le MRCI, en recueille presque chaque jour. L'organisation apporte actuellement son soutien à 1 millier de filles au pair, pour la plupart brésiliennes et espagnoles. D'après ses recherches, elles peuvent travailler jusqu'à 70 heures par semaine pour à peine 120 euros, soit bien en dessous du salaire minimum irlandais, auquel elles peuvent prétendre en principe. En principe, car faute de contrat, la législation n'est quasiment jamais appliquée. Pablo Rojas Copari n'hésite pas à parler d'exploitation.
C'est une zone assez grise dans le sens où il y a beaucoup de méconnaissances en fait. Là, il y a beaucoup d'employeurs qui ne savent pas ou qui ne se rendent pas compte de ce qu'ils sont en train de faire et n'est pas correct. C'est vraiment un travail à temps complet. On ne dit pas que tous les au pair vivent sous ces conditions-là, mais c'est une condition récurrente avec les au pair qu'on travaille.
In recent times, there's been a shift from the traditional office-based agency to online agencies. To see how the online industry works, we set up our own agency webpage.
Dans une longue enquête diffusée en décembre dernier, la chaîne de télévision publique RTI pointe également le problème des agences de recrutement qui font le lien entre les familles et les jeunes femmes. Plusieurs de ces agences opèrent illégalement, tout en prenant des commissions généreuses sur chaque placement.
Les agences se sont bien installées, elles ont bien bénéficié du travail de ces jeunes filles. Ce qu'on veut, c'est plus de clarté sur le fonctionnement de ces agences-là, et on dit que ces agences-là doivent rentrer dans les cadres légaux et fournir des au pairs qui ont accès à tout le droit du travail comme tout autre employé.
Les filles au pairs ne sont pas les seules à faire l'objet d'abus en Irlande. Le secteur des employés de maison, souvent des immigrés, pose également problème dans le pays. L'ambassadeur des Émirats Arabes Unis à Dublin a été condamné en novembre 2014 à verser 240 000 euros à trois Philippines. Il les faisait travailler jusqu'à 15 heures par jour pour moins de 200 euros par mois.
J'apprécie quand de toi l'aide,
quand de toi l'aide
me soutient ce lavabo,
ce lavabo.
Au plus vite c'est bien lavé,
c'est bien lavé.
Hérite ça, nous le savons,
à nous le savons de toilette.
C'est du dernier chic à Londres, ouvrir des cafés, des boîtes ou des restaurants dans d'anciennes toilettes publiques. Nous en avons déjà parlé dans Accent, des WC dont la cote ne cesse de grimper, comme celui qui est actuellement mis en vente dans le quartier branché de Shoreditch, plus €1 million, Marie Billon.
Pour l'instant, l'endroit ne paye pas de mine. Recouvert d'une bâche blanche, le fer forgé qui orne les escaliers de ses WC n'a rien de glamour. C'est un vendeur de falafel qui occupait jusqu'à présent les 40 mètres carrés de l'espace extérieur attaché au local en sous-sol. Mais l'agence en charge de la vente n'a peur de rien. Local charmant et excentrique, idéal pour un café, bar ou boîte de nuit, peut-on lire sur l'annonce. Il faut dire que les toilettes se trouvent dans le quartier hyper branché de Shoreditch. Et ici, tout ce qui est rétro est à la mode. Des animaux empaillés au gramophone en passant par les vestons. Et ça fait quelque temps que ça dure. Avant d'être une réserve de falafel et après avoir été des toilettes publiques bien sûr, l'endroit était occupé par une boîte de nuit, Public Life. Mais elle a fermé après que les résidents se soient plaints. La drogue y circulait apparemment librement. Aujourd'hui, l'emplacement bat un record. Des toilettes publiques n'ont jamais atteint le €1 million. Il faut dire que le concept est à la mode. Il y a déjà une petite dizaine d'ex-WC publics reconvertis en lieu de sociabilité. L'un des premiers a été The Intendant, un café huppé près de la rue commerçante d'Oxford Street, qui a décidé de garder la déco presque en l'état, après un bon nettoyage bien sûr. Les jurys noirs soutiennent désormais la plupart des tables. À Camden, dans le quartier grunge du nord de Londres, le Ladies and Gentlemen Cocktail Club rencontre un succès soutenu depuis plusieurs années. Lui a refait toute sa déco en gardant les dalles blanches au mur quand même, mais le nom de l'établissement lui a permis de garder le panneau qui, à l'époque, indiquer la présence de toilettes mixtes, ladies and gents. Bonjour docteur, je suis votre voisine. Oui, vous voyez au niveau de mon nez, j'aurais bien aimé un joli petit nez à la Cindy Crawford. Vous croyez que c'est possible?
Il y a du boulot qui l'a dit, mais sinon s'y met maintenant, vous aurez un nez de rêve avant le jour de l'an.
Prague est déjà une destination touristique de choix pour les Européens. La capitale tchèque est en passe de devenir la capitale du tourisme médical. Ainsi, les Français qui, il y a quelques années encore, se rendaient en Tunisie ou en Hongrie pour les opérations de chirurgie esthétique ou dentaire, trouvent un service de choix à 1h30 de Paris et à des prix attractifs. Le reportage de Frédéric Lebel entre Prague et Paris.
Voilà, c'est ici que ça se passe.
C'est depuis son bureau parisien, en tapant sur Internet « Chirurgie esthétique et Europe de l'Est », qu'Yves Le Goël est tombé sur Prague. Le chef d'entreprise avait peu d'a priori, si ce n'est qu'il ne voulait pas aller au Maghreb.
Non, la Tunisie, moi je voulais pas aller sur la Tunisie, parce que j'ai vu beaucoup de choses où on fait rentrer des gens et on leur fait des opérations un peu hallucinantes sur une seule journée. Ça m'a paru un peu mal géré, pas très sérieux. Des opérations assez lourdes, faites en une seule fois, ça me paraissait pas très raisonnable. Plus la Tunisie, c'est pas très calme en ce moment, donc c'est pas la peine d'aller prendre des risques inutiles sur des régions un peu sensibles en ce moment.
De manière assez cocasse, c'est avec Mediprague que M. Le Goël a finalement fait affaire, un site créé par un couple tchéco-tunisien. Après une rhinoplastie commandée pour son fils, c'est toute la famille Le Goël qui a pris ensuite rendez-vous à Prague. Monsieur pour des implants capillaires, madame pour le sillon nasogénien. Au printemps, ils vont même emmener des amis pour une nouvelle petite virée pragoise aux objectifs clairement définis.
Oh, je vais me faire un peu enlever les poches sous les yeux parce qu'avec l'âge, on fatigue et avec le travail et les horaires de travail, on a tendance à avoir un peu les poches sous les yeux. Donc on peut réduire légèrement ça, c'est pas très lourd.
Et vous leur avez ramené d'autres clients, des amis?
Il est prévu qu'on aille au printemps, oui, avec des amis, mais juste pour ces dames, vous savez, pour enlever les petites rides de la bonne cinquantaine. Donc c'est très léger, c'est pas des opérations. Il y a pas mal de gens qui le font en France, hein. On le sait pas, mais il y en a pas mal qui le font. Hein.
Prague n'est qu'à 1h30 de Paris, et avec les compagnies low cost, l'aller-retour ne fait pas grimper la note de manière vertigineuse. Le site MediPrague a été lancé il y a tout juste un an par Sami Safa, diplômé en pharmacie, et Aïcha Touati, qui a suivi ses études de chimie à Prague. Les deux entrepreneurs se défendent d'opérer une concurrence déloyale avec une Afrique du Nord déstabilisée politiquement. En Europe de l'Est, leur service 5 étoiles est conçu sur mesure pour rassurer le client.
Le fait de parler français, ça les réconforte vraiment. Donc, on arrive le matin, même pour les examens préopératoires. Donc, il y a une consultation avec un généraliste pour voir leur état de santé, comment ils vont ce matin-là. Et même pendant toutes ces procédures, on est là.
On peut s'étonner, mais c'est bien un package esthétique et touristique qui est vendu aux clients. Pour Sami Safa, il serait dommage de ne pas profiter des atouts de Prague après l'opération.
Aujourd'hui, avec les techniques qu'on propose et le développement des nouvelles techniques, la récupération se fait plus rapidement. Par exemple, une opposition aujourd'hui, il y a 15 ans, on mettait 4 jours pour récupérer. Maintenant, avec la nouvelle technique, et je vous donne un exemple, la Vasseur Lipo, qui est à base d'ultrasons, c'est une technique qui permet une récupération très rapide. Le lendemain, à la sortie de la clinique, on a des clients qui vont au restaurant, bon, qui restent une heure de temps dehors pour prendre l'air, pour dîner, et récupèrent beaucoup plus vite qu'avant. Et au bout de 2-3 jours, ils peuvent se permettre d'aller faire une visite de tel ou tel monument.
De leur bureau situé dans le centre de la capitale tchèque jusqu'à la clinique Ultra Design, il n'y a que 5 minutes en voiture.
On vient voir un chirurgien, docteur Peter Andrejka.
Le chirurgien Peter Andrejka, diplômé de l'université Charles, a aussi exercé au Royaume-Uni avant de venir se réinstaller dans son pays natal. Dans sa clinique, on compte 70% d'étrangers, surtout des Européens, et chacun réagit avec son bagage culturel.
Par exemple, dans certains cas, on voit clairement la différence de comportement entre les patients anglais, allemands et français. Quand la personne est un peu âgée, on lui demande de rester 10 jours pour le suivi. Les patients anglais vous répondent « Non, désolé, demain j'ai mon avion, je repars. » Et nous, on ne peut pas les retenir de force. Alors que les Français et les Allemands, ils sont plus raisonnables. Ils savent que c'est important et ils écoutent l'avis du médecin.
Des patients toujours pressés de repartir ou de faire du tourisme, c'est un des soucis de l'équipe MediPrague, car le post-opératoire est presque aussi important que l'opération en elle-même.
Les gens, quand ils se réveillent d'une anesthésie générale, ça leur prend 4h, 5h, ils passent la première nuit et le lendemain, ils sont tout neufs, comme moi je dis. Donc, ils sont pleins d'énergie, ils veulent sortir, ils veulent voir la ville, profiter.
Et là, on arrive à la partie donc, où il y a la salle de réveil. Donc, c'est une salle qui est spécifique. Pourquoi ? Parce qu'elle est vitrée. Et de l'autre côté, il y a la chambre des infirmières que vous pouvez voir.
Avec des tarifs entre 40 et 60% moins chers que ceux pratiqués en Europe de l'Ouest, la chirurgie esthétique est devenue presque abordable. Avec la Turquie et la Hongrie, la concurrence est rude, mais c'est justement pour se démarquer que Prague revendique aujourd'hui le haut de gamme du low cost.
Me too. Thank you very much.
Un musée différent en Lituanie. On peut toucher et même jouer avec les objets exposés. Le musée des Jeux de Vilnius présente leur évolution au fil des siècles, des balles en cuir du 14e aux Jeux soviétiques du 20e. Le musée ravit les plus jeunes, mais aussi les enfants devenus grands. Marielle Vituro.
Les fenêtres du musée donnent sur le palais des souverains. C'est là qu'ont été trouvés, durant les fouilles archéologiques, une partie des jouets exposés dans le musée. Des osselets, des toupies, des petits instruments de musique, des arbalètes, tous précieusement conservés. Mais le musée du jeu n'en serait pas un s'il était impossible de toucher et de s'amuser. Des copies de ces objets anciens ont donc été réalisées pour que les visiteurs puissent se plonger réellement dans l'univers du jeu au fil des siècles. Et c'est là tout l'attrait de ce musée, d'un genre nouveau en Lituanie. En 2015, les 16 000 visiteurs ont passé en moyenne entre 1h30 et 3h dans le musée, découvrant les jeux du Moyen-Âge, mais aussi le baby basket, la version balte du baby foot, où l'on doit faire des paniers à l'aide de ballons projetés par des ressorts. À l'heure de la production de masse, plusieurs choses surprennent les jeunes, comme l'explique Indre Blajevicene, l'une des fondatrices de ce musée. Tout d'abord, le fait qu'il y a finalement encore peu de temps, les enfants devaient fabriquer eux-mêmes leurs jeux pour pouvoir jouer. Mais ils comprennent vite qu'au fil des siècles, les principes de jeu sont restés identiques. Seules les technologies et le design changent, raconte la jeune femme. L'exposition est souvent renouvelée grâce aux dons privés faits au musée, une nécessité également pour préserver les objets les plus fragiles. En tout juste 3 années d'existence, le musée a déjà obtenu une récompense européenne pour ses activités éducatives.
Bonjour Vincent Théval.
Bonjour Laurent.
Alors aujourd'hui dans Accent, vous nous proposez un groupe au nom très exotique.
Bombay, comme son nom ne l'indique évidemment pas, est un groupe hollandais qui publie cet hiver son deuxième album, Show Your Teeth. Alors le trio montre ses dents, certes, mais ceux qui se faisaient autrefois appeler Bombay Show Pig montrent surtout leur guitare. D'une façon toutefois un peu différente de leur premier album qui jouait la carte d'un rock nerveux et acéré, après quelques remous, changements de musiciens et expérimentations en tout genre, le multi-instrumentiste Mathias Janmaat a donné à ses chansons une inflexion plus psychédélique qui évoque par endroits les tout débuts de Pink Floyd et, au détour d'atmosphères parfois engourdies, dévoile de vrais éclats mélodiques, comme sur la chanson qui ouvre le disque « Dolly doesn't want to face the facts ».
Accent d'Europe, une émission réalisée et mise en onde par Françoise Grelot et Guillaume Munier. Et c'est avec cet extrait du dernier album de Bombay que nous refermons cette série de rediffusions pour cette semaine. Dès lundi 17h40, nous vous proposerons de réécouter bien d'autres reportages, chroniques et correspondances.
jusqu'au 20.